bienvenue à vous qui nous retrouvez sur AWR, la Radio Mondiale Adventiste, pour votre nouveau programme de la Voix de l'Espérance en français qui vous est proposé et présenté par Oscar Miani. C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, aussi par Internet ou encore grâce à votre téléphone. D'ailleurs, je vous rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Alors, si vous voulez nous écouter avec votre téléphone depuis la France, eh bien, vous composez le 01 80 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, vous ajoutez le 00 33, puis vous faites le 1 80 14 44 77. Et puis, si vous voulez nous écouter depuis les États-Unis, eh bien, vous composez le 1 712 432 9 978. Aujourd'hui, nous vous proposons dans notre programme votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lindsay. Ensuite, nous retrouverons la chronique Un air de famille. Et pour finir, un temps de réflexion avec Pierre Péchou pour Vers d'autres cieux. Mais tout de suite, pour commencer, voici Sentez-vous bien. Docteur Jean Lindsay, bienvenue.
Bonjour Oscar.
Merci de nous rejoindre une nouvelle fois pour notre chronique Sentez-vous bien. Vous êtes médecin, bien évidemment, et vous nous accompagnez régulièrement autour de sujets liés à la santé. Aujourd'hui, vous revenez sur la question de la pollution, docteur Jean Lindsay. Évidemment, on en parle souvent, on sait que c'est nocif, mais c'est bien de le dire, de le redire, de le rappeler.
Oui, absolument. Nous allons aborder deux grands domaines. Premièrement, la pollution volontaire. Oui. Et deuxièmement, la pollution involontaire.
Alors, qu'est-ce que vous appelez la pollution volontaire ?
La pollution volontaire, c'est le fait de fumer, de boire de l'alcool.
Donc c'est se polluer soi-même,
Se polluer soi-même, oui. D'être sédentaire, de ne pas bouger, de ne pas avoir d'activité physique.
Et donc, par rapport à l'alcool...
Mal manger, oui.
Et par rapport à l'alcool, au tabac, à la sédentarité, à la malbouffe, il y a des nouveaux chiffres qui apparaissent.
Ah ben oui, mais effectivement, oui. 4 cancers sur 10 pourraient être évités, d'après l'Institut National du Cancer et le ministère de la Santé.
4 sur 10, c'est beaucoup quand même.
Bah, ça commence à faire, oui.
Mais ça fait 40%.
Oui, 40%. Oui. Si on faisait un rêve, si les humains prenaient l'habitude de ne pas mettre de fumée dans leurs poumons, de ne pas boire d'alcool, d'avoir plus d'activité physique et de manger plus sainement, c'est-à-dire manger plus de végétaux et moins de nourriture agro-industrielle, comme on l'appelle, quoi, de refaire de la cuisine saine à partir de produits sains, tout bêtement, hein, on aurait 40% de cancer en moins, voilà.
C'est tout ça combiné ou on peut les dissocier les uns des autres?
On peut faire un petit peu d'analyse. Hein. On a 78 000 cancers par an causés par le tabac.
Qu'on sait attribuer directement au tabac.
Vu le nombre d'études, depuis le temps qu'on cherche là-dessus, et que, sachant que tous les pays du monde font des études, à la fin, vous recoupez tout, vous avez des quasi-certitudes.
Hein. 78 000 par an en France seulement.
Oui, en France. Mm-hmm. Alors vous imaginez avec les souffrances, etc. Enfin, c'est épouvantable, c'est un cauchemar, quoi. Faut être vraiment déraisonnable.
C'est écrit pourtant sur les paquets de cigarettes.
Hein. Oui, mais ça suffit pas. Faut que ça devienne émotionnel. Enfin, faut que les... Oui, mais il faut réaliser de manière bien concrète ce que c'est, quoi. Et puis, on a 17 types de cancers qui sont
liés au tabac.
Liés au tabac, oui. Alors évidemment, on les connaît tous, les voies digestives, aérodigestives supérieures, quoi, poumons, ORL. Mais il y a aussi la vessie, le pancréas, l'utérus, l'estomac et certaines leucémies. Pour ce qui est de l'alcool, l'alcool, c'est 6 types de cancers, c'est 15 000 décès par cancer tous les ans quand même.
Hein. Donc le tabac est quand même loin devant. Hein.
Ah, le tabac, oui, c'est un petit peu. Pire, surtout les deux. Ce qui est là où vraiment ça fait beaucoup de dégâts, c'est l'association des deux.
Alors
là,
alcool et tabac.
Alors là, c'est vraiment le risque énorme. Alors on a 6 localisations pour l'alcool, c'est la bouche, le pharynx, le larynx, l'œsophage, le côlon, le rectum, le sein et le foie. Ça serait pas très difficile. Ça, c'est vraiment de la pathologie facilement évitable, quoi.
Donc réduire la consommation d'alcool, voire la supprimer totalement. On en a déjà parlé plusieurs fois et vous êtes plutôt pour l'abstinence même, docteur Jean-Lincey.
Il n'y a pas de mal à ne pas en boire. Hein. Juste pour le moment, on n'a pas prouvé que ce soit mauvais de pas en boire du tout. Il n'y a pas d'études montrant que c'est vraiment grave de pas boire d'alcool. Hein.
Et donc il y a le tabac, l'alcool. On a parlé de sédentarité aussi.
Ah ouais.
Il y a des cancers à cause de la sédentarité.
Ah bah oui, c'est bien connu. Hein.
De plus en plus.
Ça diminue
grande.
L'activité physique diminue énormément le risque de cancer, et surtout l'activité physique diminue, pas surtout, mais aussi diminue énormément le risque de récidive. Quand on a eu le malheur d'avoir un cancer, si on a de l'activité physique soutenue, hein, par exemple dans les cancers du sein chez la femme, c'est absolument incroyable. Si la femme qui a eu un cancer du sein se met à avoir de l'activité physique, mais il faut que ce soit assez intensif, hein, faut que ce soit
suivi régulier,
intense, il faut transpirer.
Les préconisations, c'est d'ailleurs 3 heures par semaine.
Ouais, ça,
je crois que c'est 3 ça.
3 heures, 3 heures et demie par semaine. Une demi-heure intensif, vraiment, vous voyez, faut transpirer quoi. Faut transpirer.
D'accord.
Assez intensif.
D'accord.
Ça divise par deux le risque de
récidive.
De récidive quoi, c'est énorme. Comme ça divise déjà par deux le risque d'en avoir un. Ça fait que si vous êtes physiquement actif, ça divise par 4 le risque de mourir d'un cancer du sein, quoi.
C'est significatif.
Ah bah oui, pas qu'un peu.
On n'a pas parlé de la malbouffe, mais bon, c'est les mauvaises graisses et tout ça.
C'est
quoi.
Junk food, hein, tout ce qui est agro-industriel, quoi. Faudrait manger des végétaux, des fruits, des légumes cultivés en proximité et bio, quoi.
Bio, vous précisez
tendance,
bio.
À tendance très végétarienne, quoi. Manger peu de viande. On recommande de manger peu de viande. Manger un peu de viande, manger des œufs, du fromage, mais ne pas manger trop de viande. Quoi.
Rouge en particulier.
Oui, pas trop de viande. Quoi. Voilà, c'est du bon sens. Les anciens, ils en mangeaient pas beaucoup, ils en avaient pas. Alors, il suffit de revenir à la poule au pot d'Henri IV, quoi, le dimanche. Quoi.
Une fois par semaine, ça vous semble bien?
Une fois par semaine, si vous mangez une viande par semaine, un peu d'œuf par-ci par-là, et puis un poisson, vous risquez, et puis surtout des légumineuses, hein, des lentilles, des haricots, des pois, qui eux amènent beaucoup de protéines, permettent on mange de la viande pour l'impasse protéique, mais en fait, il y a des tas de légumes qui apportent ces protéines. Enfin, tout ça, c'est largement documenté, hein, on sait comment faire, enfin, c'est trivial.
Merci beaucoup, on se retrouvera bientôt pour une prochaine chronique de Sentez-vous bien. À bientôt.
Au revoir, Oscar.
Au revoir.
Vous aussi, votre santé vous intéresse ? Alors, si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org.
This is Adventist World Radio. The voice of hope.
Ici Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la Radio Mondiale Adventista,
la voce della speranza.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Sentez-vous bien que vous retrouverez dès demain avec le docteur Jean-Cyan Breuil. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien il vous suffit de nous adresser un mail à france@awr.org ou alors par courrier à IEBC, La Voix de l'Espérance, boîte postale 177-193 d'Amarie-Lélis, Cedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre chronique Un air de famille et nous terminerons avec Pierre Péchou pour sa chronique Vers d'autres cieux.
J'ai le plaisir de retrouver Daniel Jaché à ce micro. Daniel Jaché, bienvenue.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes auteur de l'ouvrage Le paradoxe de la précocité intellectuelle et que, bien sûr, nous parlons des enfants quand nous parlons de ce sujet. Et ce qui nous intéresse, c'est particulièrement la précocité dans le cadre scolaire. Je rappelle que vous avez été vous-même enseignant et chef d'établissement. Donc, dans le cadre de la précocité intellectuelle, eh bien, on peut penser que c'est essentiellement un avantage, alors que ce n'est pas forcément le cas au quotidien à l'école.
Alors, on parlait la dernière fois des tests qui sont décidés à partir de l'observation de signaux qui doivent mettre en alerte et qui doivent laisser penser qu'il y a peut-être un phénomène de haut potentiel. Il y a évidemment des troubles qui apparaissent dans la vie de tous les jours du jeune enfant, ou est encore plus en évidence dans sa scolarité. Et donc, qui peuvent se développer et s'aggraver si on n'en tient pas compte et si on ne met pas en place une scolarité plus spécifique. Le trouble le plus anodin et partagé par beaucoup d'autres, ça peut être l'ennui qui peut simplement venir d'un enseignant qui n'est pas très dynamique. Mais si cet ennui se transforme en phobie scolaire, en envie de ne plus aller en classe pour justement ne pas y perdre son temps, ça peut s'aggraver, ça peut se transformer en déprime, en dépression, et alors cette réaction dans deux cas extrêmes peut aller soit d'un côté vers une révolte contre l'institution scolaire et entraîner des actes de vandalisme contre l'école, ou à l'inverse un repli sur soi, et puis une entrée lente dans un phénomène suicidaire ou d'autodestruction, qui sont graves dans les deux cas, mais qui sont exceptionnels.
Donc, en fait, d'où toute l'importance de pouvoir détecter rapidement un enfant précoce.
Alors voilà, je pense que à l'école maternelle, c'est peut-être un peu tôt. À l'école primaire, c'est la période où il faut être assez attentif et en déduire des dispositions à mettre en œuvre pour l'entrée au collège en sixième, avec une information réciproque du corps enseignant et de la famille.
Et ce qui peut apparaître comme un réel avantage au départ peut se révéler comme un véritable handicap pour ces enfants.
Alors, ceux qui travaillent sur les grands groupes et les statistiques disent qu'il y a à peu près entre la moitié et deux tiers d'enfants à haut potentiel qui arrivent d'une manière ou d'une autre à tirer profit de leur capacité pour avoir une scolarité au minimum normale et si possible réussie. Et puis il y a un tiers pour qui ça peut vraiment mal tourner.
Et d'ailleurs, je me souviens d'une chronique précédente où vous précisiez que le ministère de l'Éducation avait pris en compte en tout cas la question de la précocité intellectuelle à l'école, essentiellement sous l'angle du handicap.
Absolument. La prise de conscience du ministère, qui remonte maintenant à 10 ou 15 ans, est évidemment basée sur la prévention du handicap, car effectivement, un enfant à haut potentiel non reconnu et incompris peut évidemment supporter un handicap assez lourd dans sa scolarité.
Et alors, est-ce que aujourd'hui les établissements scolaires arrivent à aider ces enfants?
On a des exemples d'équipes très performantes qui ont bien compris la situation et qui ont mis en œuvre des dispositions tout à fait simples à utiliser, mais encore faut-il être informé, et à ce moment-là ça réussit très bien. Évidemment, il reste encore un long chemin avant que tout le système éducatif soit dans ce cas.
Et bien, en tout cas, on souhaite que les choses puissent continuer à avancer dans le bon sens pour tout le monde. Daniel Jaché, merci.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
سيدي الجليل ما ترنم بي
Ici, c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et avec toute l'équipe. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est Pierre Péchoux qui nous rejoint dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans sa chronique « Vers d'autres cieux ». Pierre Péchoux, bienvenue au micro de Vers d'autres cieux. Merci de nous retrouver une nouvelle fois.
Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
Je rappelle que vous êtes conférencier, pasteur, chroniqueur radio. Aujourd'hui, comme à chaque fois, vous nous proposez de nous arrêter sur un passage que vous avez sélectionné dans la Bible. Et aujourd'hui, vous nous proposez donc de revenir sur un événement où Jésus, lors d'une fête juive, se rend à Jérusalem. et il se rend d'ailleurs là où des malades se tiennent couchés devant un bassin, espérant ainsi pouvoir s'y plonger lorsque l'eau s'agite dans ce bassin, et notamment pour y être guéri. Et alors, à cet endroit, Jésus rencontre un homme malade qui se tient là depuis 38 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement de quoi il s'agit là, Pierre Péchou ? C'est un peu spécial comme environnement, comme description.
Oui, alors la Bible ne nous en dit pas beaucoup plus que ce que vous avez résumé. Donc j'aurais du mal en fait à expliquer parce que ça reste assez énigmatique.
Mais bon, c'est un peu particulier ce qui se passe là sur ce bassin.
On est un peu dans un fonctionnement magique. Alors la tradition nous explique que un ange, et je vais parler au conditionnel, un ange viendrait agiter l'eau et le premier qui rentrerait dans l'eau serait guéri.
Mais en tout cas, cet homme-là dont il est question, ça fait 38 ans qu'il est là, et 38 ans, ça commence à faire long quand même.
C'est le moins qu'on puisse dire. Je pense qu'on aura du mal à imaginer sa situation. On peut essayer de le faire. Mais très concrètement, c'est impossible de pouvoir imaginer ce que c'est de passer 38 ans de sa vie assis au bord d'un bassin en espérant être le premier à y être plongé pour être éventuellement guéri. Parce que nulle part, le texte nous dit que ça fonctionne. C'est une croyance populaire. Et on attribuait ce pouvoir à un ange, donc ça venait de Dieu. Et ça va être intéressant, si on ne doit rappeler qu'une chose aujourd'hui, c'est que Dieu ne fonctionne pas comme ça.
Et alors comment est-ce que Dieu fonctionne ? Oui. Qu'est-ce que Jésus va apporter de plus dans cette situation ?
Alors c'est ce qu'on va voir ensemble, et déjà ce qui pourrait ne sembler être qu'un détail, mais qui répondra déjà à votre question, c'est que cette histoire qu'on trouve au chapitre 5 de l'évangile de Jean, est un des 5 ou 6 passages dans le Nouveau Testament qui nous parle de miracles où c'est Jésus qui fait le premier pas. Très souvent, il y a une intercession, on vient pour une personne qui ne peut pas se déplacer, on apporte une personne, on vient pour soi-même, pour son enfant. Et là, ce passage avec quelques autres, nous voyons Jésus faire la démarche. Et pour moi, c'est déjà une réponse à cette question. Comment ça fonctionne ? Eh bien, en fait, on n'a pas à attendre 38 ans une hypothétique guérison. Dieu, à un moment, va venir là. En disant ça, on pourrait me dire que cet homme a attendu 38 ans la venue de Jésus. Mais je pourrais dire aussi que pendant 38 ans, il s'est mis hors de la portée et de l'action de Dieu en se soumettant à une croyance populaire. Et qu'à un moment, par bonté, on voit que même si la personne est enfermée dans sa croyance, Jésus vient à lui, Dieu vient à lui faire la démarche de guérison. Et Jésus s'approche de cet homme et lui pose une question toute simple. Et j'aimerais que nos auditeurs puissent l'entendre, cette question. Veux-tu retrouver la santé ?
La réponse paraît évidente.
Alors, et l'évidence serait oui, un grand oui. Eh bien, bizarrement, le malade ne va pas répondre oui. Jésus lui dit, veux-tu retrouver la santé ? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin. Et là, il explique en fait la tradition.
Et donc, pour lui, la guérison est vraiment conditionnée par ce qui se passe sur ce bassin.
Oui, mais s'il était là depuis 38 jours et que les 37 jours passés, il ait vu chaque jour une personne guérie ou plusieurs personnes, d'accord, je veux bien. Mais là, c'est 38 ans. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Et en plus, personne ne l'a jamais jeté dans l'eau le premier. Mais il reste enfermé. Et ce que je trouve absolument effroyable, c'est que cette personne est enfermée dans cette croyance. Ça fait 38 ans que rien n'a changé, mais il n'en sortira pas. Et quand on lui dit « Est-ce que tu veux retrouver la santé ?», il reste dans cette optique « Oui ». Pour retrouver la santé, il faut que je puisse être le premier à être jeté dans l'eau. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus, une fois que l'homme lui a répondu ça, Jésus va lui dire quoi ? Jean chapitre 5, verset 8, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton grabat et marche. Donc voilà, l'homme n'est peut-être pas capable de sortir de son cadre, mais c'est pas grave, Jésus est venu pour la guérison, lève-toi, prends ton grabat et marche. Et on voit ici vraiment la puissance de Dieu, un acte de recréation, même si cet homme avait été soigné, qu'on avait réparé ses jambes, si c'était ses jambes qui étaient atteintes. Il aurait dû apprendre à marcher après 38 ans d'immobilisation. Mais là, ce n'est pas le cas. La parole de Jésus est une parole créatrice, la parole recréatrice de nos vies. Et sur cette parole, cet homme se lève et marche comme s'il n'avait jamais été paralysé. Nous puissions accueillir ce Jésus qui vient à nous, peut-être pour nous aider à sortir de nos enfermements, entendre sa parole et être dans une nouvelle dynamique de vie grâce à cette parole de Dieu.
au nom de l'amour.
Est-ce un nouveau film ?
Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC.
IEBC ?
Oui, l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tous les cours gratuits.
Tu as raison, au nom de l'amour, ça vaut la peine. Ce cours m'a vraiment interpellé. www.iebc.org.
Notre émission est maintenant terminée. Vous étiez à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'était La Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain. Je vous souhaite une très bonne continuation à tous. Que Dieu vous bénisse. À demain. Thank you.